Je ne sais pas ce qu'est l'amour, je sais que nous donnons ce nom à une attirance physique, à une proximité spirituelle, à un besoin que seule la présence d'un être parvient à calmer, à un type de lien, exclusif ou non, qui nous unit à un être, à l'ivresse d'un accès sans limite à quelque autre que nous, et on pourrait continuer. Mais j'ignore si je ne suis pas en cela la victime d'une illusion anachronique. Il y a déjà quelque temps que l'inventeur de la schizoanalyse s'était laissé dire que l'amour est une espèce incorporelle en voie de disparition.
Si on faisait pour l'éther le dixième de la réclame qu'on fait à l'amour, le monde entier bientôt s'y adonnerait. C'est ce qu'on se figure la première fois. Erreur cependant, ce qui compte en tout, c'est la virginité. La première fois qu'on offre sa santé, sa force, son âme ignorante à l'amour ou à l'éther, quelle résonance profonde, mystérieuse. Mais petit à petit, quoique la jouissance doive être presque la même, on la circonscrit de plus en plus étroitement grâce à son sens critique grandissant, perdant de la sorte à faire le malin, le profit des grandes ondulations de l'être. Qu'est-ce que le cerveau ne tue pas? On se le demande vraiment. L'éther et l'amour sont deux tentations et deux attentats de l'homme contre le temps. Le temps est chassé durant les saccades de la jouissance. La série précédente est coupée, on peut donc recommencer à compter à partir de 1. L'homme ne supporte pas le temps. Heureusement, il n'a pas toute sa vie à supporter sa vie. Ce serait intolérable. Il vit à la journée, ou bien il vit une double journée, ou une triple, une quadruple, mais alors excédé, distendu à l'excès, par cette centaine d'heures où les impressions s'accumulent et se groupent, sans jamais s'enfoncer pour de bon, il aspire furieusement à jeter sa vie dans une voie de garage, à une catastrophe au besoin. Dans ces moments, un boxeur qui le mettrait knock-out lui ferait du bien.
Je ne sais pas ce qu'est l'amour. Je sais que nous donnons ce nom à un élan irrépressible du cœur, à une sorte d'attirance sensuelle aussi bien qu'à une extase spirituelle, ou plutôt à un transport qui ne connaît plus ni âme ni corps, à un certain état de besoin que seule la présence d'un être parvient à calmer sans jamais le combler, à un type de lien durable qui nous unit à un être, au vertige d'un accès à quelque autre que nous. Et on pourrait continuer. Mais j'ignore si je ne suis pas en cela le jouet d'une circonstance historique passagère. En d'autres temps ou sous d'autres ciels, aurais-je été traversé par de tels états? Les aurais-je nommés ainsi?
Là où je suis né, règne une différence importante. D'un côté, dit-on, il y a Eros, l'amour-passion. De l'autre, la philia, l'amour filial et l'amitié. Et aussi, celui que les chrétiens ont appelé agapé, l'amour du prochain. C'est pareil et pas pareil. C'est pas pareil et c'est quand même aimé. Celui qu'on appelle l'amour-passion n'est jamais loin du désir. Pourtant, il ne se confond pas avec la recherche de la jouissance sexuelle. Tout serait plus simple s'il s'y confondait. Désespérément trop simple.
Ce qui se déclenche chez les victimes angoissées mais émerveillées d'un coup de foudre est caractérisé par les réactions hyperboliques de tout l'être à une incitation des plus banales, qui serait chez tout autre normal, autrement dit facile à compenser, neutralisée par la réponse que chacun sait. Mais voici tout d'un coup qu'à cette incitation, tout l'être des amants se met à réagir, dans un branle-bas général, par une fièvre, une rougeur, des arythmies du cœur, ou au contraire, par une espèce de catalepsie hiératique, les yeux rivés dans une mutuelle hypnose. Or, ils disent tous qu'ils aiment être saisis par une telle fièvre, par ce bouleversement des sens et de l'âme. La passion et ce trouble effrayant mais délicieux que provoque la présence de certains êtres, pour des raisons qu'eux-mêmes, comme ceux qui réagissent à leur présence, disent ignorer absolument. Et je les crois. Plus tard, ils essaieront de rationaliser, poétiser, moraliser, et là, je cesserai de les croire. Cherchant des analogues de ce phénomène à un niveau physiologique, Je ne trouve guère que le mécanisme de l'allergie, réaction excessive à un agent externe qui est d'ordinaire inoffensif, mais qui soudain, pour des raisons que nul ne connaît, provoque chez celui qui s'est trouvé sensibilisé par un premier contact une surcompensation violente, par exemple une surabondante production d'antihistaminiques suite à une simple piqûre de moustique. À l'incitation du désir, la réaction passionnelle tout d'un coup déborde immensément. Et que le désir soit ou non satisfait n'y change rien dans les cas graves. La passion, une fois déclarée, exige beaucoup plus que cette satisfaction. Elle veut tout, et surtout l'impossible. L'infini dans un être
L'amour
fini.
L'amour est tout autre chose pour les hommes que pour les femmes. Chez la plupart, il est sans doute une sorte de convoitise. Pour les autres hommes, l'amour est l'adoration d'une divinité souffrante et voilée.
Et se conformer à l'image d'une telle déesse, dès lors, la tâche ou la tentation de combien de femmes ?
Ce n'est pas amour qui tourne à réalité. Cette sentence courtoise signifie que finamor est jouissance du désir, non du plaisir. Et quand les passionnés sont contraints de vivre ensemble, le filtre cesse bientôt d'agir. À l'extrême, il s'agit d'écarter la réalité physique de l'être aimé, surtout celle de la femme pour l'homme, car il n'y a pas ici de symétrie, et je n'ai pas encore trouvé une seule femme qui ait chanté l'amour de loin.
Aimer, quel que soit le sens que l'on donne à ce verbe, ne se dissocie pas, ne peut pas être dissocié, d'un élément théorique dont ce sens, précisément, dépend. La place que nous donnons dans notre propre existence à l'expérience de l'amour, son importance, la manière dont nous nous rapportons à cette expérience, tout dépend de ce que, faute de mieux, j'appellerai théorie de l'amour. Que cette théorie soit explicitement élaborée par ceux qui aiment, ou reçue comme un don fragile et précieux, ou reproduite dans l'obscurité. Qui, ignorant jusqu'à l'existence du banquet de Platon, peut prétendre que sa vie ne sera pas le champ de bataille des figures de l'amour qui s'y confrontent. Figure que l'on peut qualifier de mythique, tant il est vrai que le caractère le plus profond du mythe, c'est le pouvoir qu'il prend sur nous, généralement à notre insu. Ce qui fait qu'une histoire, un événement ou un personnage deviennent des mythes, c'est précisément cet empire qu'ils exercent sur nous comme malgré nous. Et les théories de l'amour ne s'opposent pas aux mythes. L'emprise de certaines idées sur nos vies est une emprise mythique.
Il semblerait que notre peu enviable sort soit le suivant. D'un côté, nous vivons dans des sociétés où un nouage singulier attache, sous le nom de sexualité, notre orientation sexuelle, et donc l'obligation d'en avoir une, à notre identité la plus authentique. D'un autre côté, nous subissons la fascination d'un mythe, ou plutôt de ses restes exsangues, le mythe de l'amour-passion.
Presque tout le roman, de Tristan et Iseu à Madame Bovary. Et puis, le cinéma a pris la relève.
À l'intérieur de ce temps sans espoir, l'éducation sentimentale...
Il n'y a pas d'éducation sentimentale. Il y a le sentimentalisme qui nous tient lieu d'éducation.
L'amour heureux n'a pas d'histoire. Ce qui exalte, le lyrisme occidental, ce n'est pas le plaisir d'essence, ni la paix féconde du couple. C'est moins l'amour comblé que la passion d'amour. Et passion signifie souffrance. Voilà le fait fondamental.
Ce que nous appelons l'amour, l'amour-passion est celui chanté par les troubadours, qui a vu le jour au XIIe siècle dans l'atmosphère religieuse de l'hérésie cathare.
Selon la thèse officiellement admise, l'amour courtois est né d'une réaction aux mœurs féodales. À ces mœurs, l'amour courtois oppose une fidélité indépendante du mariage légal et fondée sur le seul amour. Il en vient même à déclarer que l'amour et le mariage ne sont pas compatibles. Mais cette fidélité courtoise présente un trait des plus curieux. Elle s'oppose autant qu'au mariage à la satisfaction de l'amour par l'entière possession de la dame aimée.
L'enthousiasme que nous montrons pour le roman et pour le film né du roman, l'érotisme idéalisé diffus dans toute notre culture, dans notre éducation, dans les images qui font le décor de nos vies, enfin, le besoin d'évasion exaspéré par l'ennui mécanique, tout, en nous et autour de nous, glorifie à tel point la passion que nous en sommes venus à voir en elle une promesse de vie plus vivante, une puissance qui transfigure, quelque chose qui serait au-delà du bonheur et de la souffrance, une béatitude ardente. Nous voulons la passion et le malheur, à condition de ne jamais avouer que nous les voulons en tant que tels.
L'ardeur amoureuse spontanée, couronnée et non combattue, est par essence peu durable. C'est une flambée qui ne peut pas survivre à l'éclat de sa consommation. Mais sa brûlure demeure inoubliable, et c'est elle que les amants veulent prolonger et renouveler à l'infini. Tristan n'aime pas Iseut, mais l'amour même. Et au-delà de cet amour, la mort, c'est-à-dire la seule délivrance du moi coupable et asservi. Tristan n'est pas fidèle à une promesse, ni à cet être symbolique, ce beau prétexte qui s'appelle Iseut, mais à sa plus profonde et secrète passion. Fidélité qui consume la vie, mais qui consume aussi la faute, et divinise un moi purifié, innocent. De ses origines mystiques, la fidélité passionnée n'a gardé parmi nous que l'illusion d'accéder à une vie plus ardente.